Direction pour commencer le Centre Pompidou Paris pour y découvrir la rétrospective consacrée à Cy Twombly dans une exposition qui présente 140 peintures, sculptures, dessins et photographies du plasticien américain né en 1928 dans l'état de Virginie et mort à Rome en 2011 dans cette vieille Europe et singulièrement l'Italie qu'il aimait tant, où il vécut d'ailleurs la plupart du temps dès la fin des années 50 après avoir découvert l'Italie et l'Europe dès 1952 lors de son premier grand tour à la manière des anciens. Des premiers travaux du début des années 50, alors qu'il est au mythique Black Mountain College, jusqu'à ses dernières peintures, une exposition qui est construite autour de trois grands cycles et qui entend justement souligner l'importance des cycles et des séries dans l'œuvre et le parcours de Cy Twombly. Rappelons que son dernier grand œuvre, dévoilé en 2010, est le plafond de 400 mètres carrés du Salon des Bronzes de l'Elsuli, du Musée du Louvre à Paris. Ça, on pourra le voir, on l'espère, pour les siècles des siècles. Le commissaire de l'exposition du Centre Pompidou est Jonas Storsve. Piano de John Cage, c'est assez naturel pour arriver vers Cy Twombly. Corinne Rondeau, cette exposition, cette rétrospective, on l'attendait, elle est là.
On l'attendait, mais j'avais aussi le souvenir, vous vous rappelez peut-être Arnaud, de l'exposition Blooming qu'il y avait eu à la collection Lambert. Ça avait été un choc de voir ce vitalisme de ses courbes, de ses traits sur les murs. C'était vraiment une apothéose de couleurs et de surface. C'était très très beau. Alors c'est vrai qu'une rétrospective, ça est tombé, on peut l'attendre. Eh bien, on l'a, bon, très bien. C'est vrai que la partie qui nous accueille est une partie d'assaise très très fort, puisque c'est les premières œuvres, on va dire, le cycle d'appel Lexington, qui est très important, qui renvoie à sa ville de Virginie, à laquelle il a été très attaché. D'ailleurs, c'est une exposition quand même qui est jalonnée de géographie. On le suit à travers des lieux. Et donc c'est des couloirs, on va dire, des salles d'assaises, ce rapport graphique qu'on connaît, le gribouillis dont Barthes avait parlé, et d'une certaine manière aussi, être face à tout ça, c'est une manière de voir un peu qu'est-ce que ça produit, aujourd'hui aussi sur nous. Parce qu'on les connaît, on les a vu beaucoup représentés dans les catalogues, mais on n'a pas eu autant d'œuvres. C'est vrai que dans la dimension, je dirais, de l'importance, hein, la quantité, vraiment, parce que c'est très très important au début, tous ces fonds blancs avec cette sorte de calligraphie qui n'en est pas une, ce trait tremblé, mais qui n'est pas non plus que tremblé, cette ligne qui pourrait ressembler à un dessin d'enfant qui n'en est pas un, parce qu'il faudrait encore qu'un enfant peigne sur une toile industrielle, que par ailleurs, effectivement, quand on voit vraiment avec beaucoup d'intérêt et qu'on s'arrête sur chaque œuvre, on voit à quel point, en fait, c'est un blanc, c'est l'espace qui compte, et non beaucoup moins que le trait, je trouve, et qui est une manière de neutraliser vraiment le plan sur lequel ont lieu ces traces, et puis aussi tous ces petits détails quelque peu érotisés, on va dire. Il y a des petits sexes, on va dire, ici et là, d'hommes ou de femmes, puis des traits assez indistincts, on ne sait pas ce que c'est. Et puis c'est toujours cette manière de se poser la question, qu'est-ce qui se passe là? Alors ce qui se passe là, pour le coup, là, c'est vrai, j'ai un peu relu les textes de Barthes, parce qu'on les a tous dans la tête.
On ne les a pas tous dans la tête, donc c'est bien que vous nous en parliez.
C'est vrai, mais parce que je dis ça parce que même à la fin de sa vie, je me rappelle que on m'avait rapporté dans les années 2010 qu'il disait que les textes qui comptaient le plus, enfin le texte, parce que Barthes a écrit deux textes, mais en fait le second pour Yvon Lambert, pour la galerie, est un dérivé du premier texte. Et il disait que c'est, voilà, le texte le plus important pour lui, c'était ceux de Roland Barthes. Et Roland Barthes a une expression qui est assez belle, qui reprend de Paul Valéry. Il dit le grand vide enfermé. Et le blanc qu'il y a dans ses premières œuvres, c'est vraiment un grand vide enfermé. Paul Valéry en parle, des grandes maisons baignées de lumière. Ouais. Alors ça, c'est très beau parce que c'est pas du tout lumineux. Et en même temps, il y a quelque chose, voilà, d'une grande neutralisation, du regard. Et en même temps, voilà, c'est fait aussi pour être montré. C'est très curieux parce que c'est très pauvre, c'est très ténu, et en même temps, c'est fait pour renvoyer un certain nombre de signes. Alors, à partir de là, vous avez aussi des tableaux qui seront pour le coup un peu ironiques par rapport à la période minimaliste, puisque c'est le moment où lui, il est un peu étiqueté d'Européen, et pendant que le minimalisme, casse la baraque aux États-Unis. Et vous avez notamment trois grands tableaux où vous avez un peu mal fait, parce que c'est jamais très propre, et c'est objectivement fait pour ne pas être propre. Vous avez un rectangle à la cire blanche, hein, sur un fond noir. Puis ensuite, ce rectangle coupé par deux traits à l'horizontale, ça fait trois carrés. Et puis ensuite, il y a un autre où il y a les deux traits à la verticale, à l'horizontale, il y a un trait à la verticale. Donc, je vais essayer partie. Donc, il y a quelque chose de la mesure et de la multiplication d'une mathématique qui est une manière ironique de répondre à quelque chose de cette période-là. Et puis, très rapidement, évidemment, là, il y a, je dirais, c'est de très beaux passages. Voilà. Jusqu'à cette série que je connaissais pas, sur ce qui semblerait une réponse à l'attentat de John Fitzgerald Kennedy, qui sont les 9 discours de Commodore. Bon, avec là la couleur qui apparaît sur des fonds gris comme ça, qui ont une très grande force. Mais en même temps, j'ai commencé à me dire, mais finalement ça a quand même vieilli, ça et Twombly. Très étrangement, j'ai trouvé ça. J'ai été un peu étonnée, voilà. Parce que toujours ce mouvement de grand vitalisme, de ces bloomings de la collection Lambert. Et puis je dois dire que j'avais vu des sculptures aussi, puisque il y a une grande articulation, on va dire, qui est faite vers l'ouverture du centre, vous savez, au dernier étage, où on voit la vue de Montmartre. Puis vous avez les sculptures ici. Là, ça m'a pas plu du tout. Cet agencement de sculptures sur ce fond, cette perspective parisienne grisâtre ce jour-là, m'a vraiment enlever quelque chose. Et puis, je dois dire que les parties qui ont suivi m'ont extrêmement déçu, mais très très grandement déçu, à l'exception, je trouve, d'un cycle merveilleux qui est, je ne veux pas dire de bêtises, qui est 50 Days at Ilium de 78, dans une salle qui a deux ouvertures, mais le cycle est enfermé, avec deux autres tableaux qui sont Vénus et Apollon. Et là, je dois dire que j'ai compris ce que j'aimais, en fait, chez Cy Twombly. Ce que j'aime chez Cy Twombly, c'est d'être seul avec des cycles. Or, cette exposition, et je comprends que le début soit tout ouvert, on est dans la ligne. Mais ce qui m'a manqué, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai raté un cycle, un des plus importants d'ailleurs parce qu'il a été prêté par les États-Unis, je ne me rappelle plus exactement le propriétaire du musée, et je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive dans les dernières salles qui sont toutes ouvertes, j'ai été dans la dispersion absolue, alors qu'en fait je pense que j'ai un rapport assez contemplatif à ce travail, et j'ai trouvé que ça perdait beaucoup. Et voilà, j'étais, surprise de voir que ça avait vieilli, que c'était d'une très grande pause. Il y a beaucoup de pauses dans le travail de Cy Twombly. Et je me suis dit, ben voilà, après un temps, il y a un autre. Parfois, on change notre goût face à des choses.
Frédéric Bonnet, sur cette exposition et cette rétrospective, Cy Twombly, comment est-ce que vous l'avez perçue tout d'abord?
C'est une exposition que j'ai trouvée très équilibrée dans sa conception, et donc en ce sens-là assez réussie. Le choix des œuvres est assez magnifique. C'est quand même très bien joué d'avoir réussi à mettre la main sur trois ensembles entiers qui jalonnent le parcours, donc qui sont deux ensembles consacrés à la guerre de Troie, celui d'Ilium dont a parlé Corinne, et les 9 discours sur Commode, et le couronnement de Sésostris. Après, ce qui m'intéresse aussi dans cette exposition, c'est que finalement, et là je rejoins complètement Corinne sur le fait que je crois que c'est une peinture qu'effectivement on a besoin de regarder quand on est seul ou en tout cas un peu tranquille, parce que sinon elle va avoir du mal à vous parler et on va vraiment avoir du mal à se projeter, pas à se projeter dans le tableau, mais à regarder le tableau. Parce que c'est une réflexion que je me suis faite en arpentant l'exposition. Je me suis dit, finalement, ces artistes qu'on aime tous, on les voit, mais on ne les regarde plus. Mm-hmm. Et parce que, voilà, c'est quelque chose qu'on a intégré. Saï Toumbli, c'est génial, c'est un grand artiste. Hein. Et finalement, on se rend compte que ça fait des années qu'on voit passer les images de Saï Toumbli, mais qu'on les regarde plus vraiment. Et il y a quand même quelque chose d'assez formidable dans le dans la peinture de Toumbli, c'est que justement moi elle me paraît quand même s'attacher au visible et à l'indicible et elle réussit à les rendre perceptibles quelque part, et pour ça il faut quand même être dans un état de concentration face au tableau, parce que voilà, c'est pas simplement une image qui vous passe devant et on peut pas digérer ça comme ça. Ensuite sur l'organisation de l'exposition, moi je l'aurais toujours trouvé des caractéristiques plastiques et esthétiques indéniables, mais j'ai jamais été fasciné par les tableaux de ces dernières périodes, les blooming, les fleurs, et évidemment j'ai trouvé ça beau comme tout le monde, mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire beau, voilà, il y avait la magie de Toumbli, hein, cette magie du trait, du geste, de réussir à vous mettre face à quelque chose qui forcément vous impressionne, mais passer l'effet d'impression première. Moi, les tableaux à partir des années 90, la plupart du temps, j'ai une retenue qui tient aussi au fait que ça glisse vers un lyrisme qui ne me convient pas. En tout cas, que moi, je n'apprécie pas. Alors que la première partie de sa carrière absolument rêche et ascétique, là me va parfaitement bien, parce que je trouve assez prodigieuse la manière dont un jeune homme nourri par l'expressionnisme abstrait américain, qui est quand même le socle de sa formation et de son environnement, a réussi à prendre très tôt une conscience du geste qui était implicite quand on est un jeune peintre au début des années 50, avec l'héritage qui est encore en cours d'ailleurs, hein, qu'on a. On se pose forcément cette question du geste, et tout de suite d'intégrer une question de l'écriture. C'est quand même très intéressant de savoir que Toumbli, quand il a fait l'armée en 53 ou 54, il était cryptographe au sein des services armés américains, et d'avoir imposé tout de suite l'écriture comme une donnée première, y compris dans le champ pictural. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même tout le long de la carrière. Il y a toujours une question d'écriture qui est là, qui est sous-jacente, même encore une fois dans les séries les plus récentes, qui moi m'intéresse moins. Et il y a une autre remarque que je me suis faite en visitant cette exposition. C'est une question de une certaine sophistication. C'est un qualificatif qu'on n'a jamais trop employé pour qualifier le travail de Toumbli, que celui de sophistiqué. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très sophistiqué dans la peinture de Toumbli. Et ça, je trouve ça aussi assez prodigieux. Dans cette époque, quand il commence dominé par l'expressionnisme abstrait, l'abstraction gestuelle, de faire rentrer une forme de sophistication dans la peinture américaine qui se double en plus d'une question relative à l'énergie, c'est-à-dire qu'il ne gomme absolument pas l'héritage et la formation qui sont les siens, mais il intègre tout ça avec un vocabulaire qui lui est propre, et justement cette retenue, cette question de l'écriture, cette question du langage qui tout mis ensemble, me semble constituer une peinture profondément sophistiquée.
Alors, voilà, des très riches regards, mais alors qui sont des regards d'initiés, hein, sur le travail de Saïd Tombly, vous disiez, à fort juste titre, hein, Frédéric Bonnet, on en a beaucoup vu. Alors, il est quand même dans ce studio, et pour quelques personnes qui nous écoutent, on a eu la chance de voir beaucoup d'œuvres de Tombly dans différents lieux, dans différents musées. Et il n'empêche que là, pour moi, le Centre Beaubourg, le Centre Pompidou joue vraiment son rôle en proposant une rétrospective à un artiste connu des initiés, mais qui, franchement, me semble-t-il, est pour le grand public un nom à peu près inconnu, même si le marché de l'art, évidemment, la mort faisant, s'est emparé aussi, a fait des ventre-corps l'année dernière avec des œuvres de Saïd Tombly. Et je crois que pour beaucoup, ça, c'est et ce sera, jusqu'au 24 avril, fin de l'exposition, une formidable découverte, parce qu'on a quand même une proposition extrêmement large. Vous avez dit très bon choix d'œuvres, et j'ai lu aussi que ça avait été fort compliqué pour le commissaire de l'exposition de les réunir. Parce que du vivant de Saïd Tombly, lui-même pouvait dire, voilà, prêter ses œuvres, etc., une fois que les gens sont morts. Donc je crois que la fondation, je ne sais pas si c'est une fondation, Saïd Tombly a beaucoup aidé au montage de cette exposition, grâce lui en soit rendu aussi. Je pense qu'il peut y avoir un vrai choc, alors positif, négatif. Moi, je connais des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Saïd Tombly, qui sont tombés en amour en visitant cette exposition. C'est important qu'il y ait cette proposition qui soit faite par le Centre Pompidou, Corinne Rondeau.
Non, ben oui, il faut tout à fait se réjouir. C'est pas parce que...
Non, mais c'est important, vos avis éclairés. Mais je pense que c'est important de cette mise en lumière.
Oui, oui. Voilà, réjouissons-nous de ce moment où on peut découvrir, où d'autres peuvent découvrir ça et nous revoir, effectivement. Et découvrir que bon, quelque chose de ce qu'on a aimé aussi a vieilli, que j'entends tout à fait le côté sophistiqué que Frédéric évoque, parce que moi je l'entends par pause. Je dis pas pause du sud, hein, mais je dis pause, je fais exprès de mais c'est vraiment je regardais notamment, il y a une sorte de calendrier avec des collages, et puis il y a des mots écrits, mais cette écriture qui est asymétrique, et on sent qu'il y a quelque chose de... Elle est posée. Et quand Barthes parle de maladresse, maladroit, gauche, il y a tout ça d'une pensée de qu'est-ce que je vais mettre. C'est ni jeté, ni trop pensé. C'est-à-dire, c'est dans une intersection. Et au bout d'un moment, je dois dire, alors peut-être ça rejoint le lyrisme qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, il y a quelque chose de pesant. Pour moi, de terriblement pesant. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans les premières œuvres, avec ces tableaux qui sont des tableaux limites, que faire d'autre ? Je veux dire, il y a quelque chose de... Ils ont une grande puissance, parce qu'ils ont une mise à distance, et en même temps, la possibilité pour nous de s'arrêter. Alors moi, je dois dire que j'aime beaucoup ceux qui sont des collages. Il y a des petits collages de papier. Ça, j'ai trouvé absolument merveilleux, même si la colle jaunit. Je trouve que c'est un peintre du temps, Saïd Tombly. Même lorsqu'il fait des photographies, parce qu'on n'a pas parlé de photographie, mais on en a derrière la première œuvre qui nous fait face, comme un autoportrait d'ailleurs, comme quelque chose d'un visage qui nous accueille, avec un œil comme ça qui nous regarde, pour nous dire qu'allez-vous voir, ben voilà. Et de l'autre côté, on a des séries de photos noires et blancs avec des tables, des nappes sur des tables, et à la fin, on a Gaët, c'était des agrumes qu'il avait fait, qu'il avait photographié du nom du lieu où il l'a photographié. Et il y a quelque chose dans les photographies de Saïd Tombly que j'aime assez, c'est toujours un filtre du temps qui tombe. Elles sont légèrement floutées, mais pas tout à fait. Il y a quelque chose du grain de l'image qui rencontre le grain de la matière qu'il photographie. Il y a une sorte de temporalité qui est arrêtée. Et je trouve que ces photos, c'est aussi une manière de renvoyer un arrêt du regard. Qu'est-ce qu'il regarde ? Et d'ailleurs, je crois que toute la question en fait du tableau chez Saïd Tombly, c'est une manière pour lui de regarder ce qu'il pouvait bien voir, comment il s'imprégnait des lieux sur lesquels il... Parce qu'il voyageait beaucoup. J'aime beaucoup l'idée que l'exposition soit égrenée de lieux. Ça, je trouve que c'est important. Et je trouve aussi que, finalement, si on devait faire une synthèse du parcours, même si je trouve que... d'avoir ouvert les dernières œuvres, pour moi, c'est le cycle du couronnement, par exemple, devait être enfermé pour moi, parce que vraiment, je l'ai raté dans sa linéarité, en face de tableaux très colorés, ou très pastels, avec des taches blanches sur un vert clair. On va de la ligne à la coulure. Et ça, c'est assez beau, parce que c'est aussi une question du temps. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas à la mine de crayon, et que vous passez au... Il est toujours dans la matière avec quoi il fait. un crayon ou un pinceau. Et cette gravité du temps, c'est cette coulure sur laquelle il n'a aucune action, mais qu'il regarde couler comme on les regarde. Et je trouve que cette ligne, c'est l'autre ligne. C'est la ligne d'après, peut-être la ligne qu'il attendait, qui était déjà dans la graphie du début. Je trouve ça assez beau et je pense que c'est quelqu'un qui est allé vers l'enfermement. Vraiment, pas au sens négatif, mais quelqu'un qui a cherché à regarder ce qu'il était en train de peindre.
Frédéric Bonnet, dernier mot, exposition Saïd Tombly.
Je crois que la question de la coulure, justement, elle est assez essentielle, parce que la coulure, c'est aussi l'effondrement et la liquéfaction. Et qu'il y a quelque chose qui est très intéressant et je crois important dans le travail de Tombly, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que tout à sa manière de lier l'expressionnisme abstrait et la chaleur d'une culture méditerranéenne, il y a véritablement des propos politiques et historiques qui émerge dans ce travail et une manière assez singulière de lier l'histoire et la contemporanéité et la politique contemporaine. Quand il parle de la guerre de Troie, quand le cycle sur Commode qui fait référence à l'assassinat de Kennedy et qui est aussi en pleine guerre du Vietnam, c'est des commentaires politiques qui sont assez forts, qui je crois n'ont pas été compris à cette époque-là. Et même dans les Blooming de 2005, c'est du rouge sang qui est en train de s'écouler sur la surface de la toile. Il y a la guerre en Irak qui a commencé. Je ne sais pas si c'est un commentaire direct vis-à-vis de ça, mais c'est une éventualité. Et en tout cas, la couleur n'est absolument pas neutre. Il aurait pu faire ses blooming avec autre chose qu'avec du rouge. Et je crois que ce choix du rouge n'est absolument pas neutre. Et c'est en ça que Twombly est assez fort aussi. C'est qu'il arrive quand même à vous envelopper avec une espèce d'illusion d'une nature élégiaque qui n'est absolument pas une nature élégiaque. Et c'est là aussi où je reviens à mon propos initial sur le fait que on voit passer ces tableaux parfois très rapidement sans les regarder, et que si on prend le temps de les regarder, ils sont quand même beaucoup plus complexes que ce qu'ils peuvent paraître, notamment pour les derniers.
Prenez le temps de voir ces œuvres dans la rétrospective de Saïd Tombly au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 24 avril. Et puis un beau catalogue qui a été édité pour l'occasion par le Centre sous la direction de Jonas Storsve.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.